Vous avez été très nombreux et très nombreuses à réagir en direct dimanche dernier lorsque notre invitée, Marie-France Bazot, est venue présenter son livre « Nous méritons mieux ». Alors, une réflexion tout à fait en direct de cette pandémie où on entend tellement de choses que c'est une pandémie historique et tout ça. Non, l'humanité a traversé des crises bien pires. Cette fameuse grippe dite espagnole de 1918 a fait au moins 50 millions de morts. Notre prochaine invitée, on lui a parlé beaucoup vers 2008 à peu près, au moment de la crise énergétique. C'était notre spécialiste du pétrole. On a eu des conversations très intéressantes avec lui sur notamment les réserves mondiales de pétrole et l'avenir du pétrole et des énergies fossilifères. C'est Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal, qui est avec nous ce matin pour nous présenter son ouvrage qui devrait, en principe, vous faire réagir ce matin aussi. Normand Mousseau, bonjour.
Bonjour, Paul.
Pandémie, quand la raison tombe malade. Et permettez-moi rapidement, Normand, de passer à cette introduction où vous vous interrogez. Vous dites, nous sommes une civilisation qui connaît la mécanique quantique, qui a mis les pieds sur la Lune, qui a les moyens de bouleverser à elle seule tout le climat de la planète, et on se défend avec des moyens presque du Moyen Âge contre cette pandémie. Je vous laisse poursuivre.
Oui, en effet, c'est vraiment ça qui m'a bouleversé, bien, comme plusieurs là, au début. C'est-à-dire, comment est-ce que, dans une société comme la nôtre, on est incapable d'agir de manière subtile ou pointue sur ce qu'il faut faire? Donc, cette pandémie-là, vous l'avez dit, on en a connu dans le passé. Encore récemment, par exemple, même des maladies virales comme le sida tuait plus de personnes par année que la pandémie actuellement. Et malheureusement, tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est d'enfermer les gens dans la plupart des pays développés plutôt que de mettre en place des mesures appropriées. Puis on a mis en place aussi, je dirais, des mesures extrêmement injustes, extrêmement inégales. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure avec Ricardo, mais ça a touché de manière disproportionnée les jeunes, les femmes, les gens qui sont démunis, et sans vraiment faire attention, sans vraiment essayer de corriger cette situation-là.
Vous dites qu'il y avait moyen de faire autrement. Il y a même une étude qui est sortie il y a quelques semaines en disant le confinement total. Ce que ce que Toronto et Peel vont faire ce soir, le lockdown, ben c'est peut-être pas le meilleur moyen non plus.
Non, puis mon livre va plus que là, mais dans cet aspect-là, c'est que on le voit au Québec, par exemple. Les derniers sondages montrent qu'il y a à peu près les trois quarts des gens qui respectent les restrictions parce qu'elles sont insupportables. Donc, il y a plein de gens qui passent à côté. Ce qui fait que ceux qui respectent sont pénalisés par cette situation-là. Ça fait 8 semaines à peu près qu'on est embarré à la maison. Et ceux qui respectent pas, ben ils font sous couvert, ce qui fait que si, par exemple, il y a de la contamination, ben on n'ira pas dénoncer les gens avec qui on s'est tenu. Donc, on nuit énormément au dépistage, on nuit énormément au traçage, et tout ça fait en sorte qu'on met en place des mesures dont on voit pas la sortie, mais qui maintiennent la situation là, bancale qu'on connaît aujourd'hui.
Mais je reviens aux scientifiques que vous êtes. Vous êtes physicien, oui. Plus que physicien d'ailleurs. Vous êtes biologiste aussi.
Ben, biophysicien.
Biophysicien.
J'ai deux projets sur la COVID là, présentement, où on essaie justement d'identifier des molécules qui permettraient de limiter l'attachement du virus lui-même aux cellules.
Mais Normand, vous connaissez très bien la façon dont s'est propagé ce virus. Comment expliquer, je reviens au début de l'entrevue, comment oui. expliquer, Normand Mousseau, qu'en 2020, on se défend à peu près avec les mêmes moyens que les civilisations du passé, à l'époque de la peste bubonique, c'est-à-dire le confinement, l'isolement des malades, et puis l'hygiène corporelle. Comment vous expliquez ça?
Bien, il y a des choses fondamentales. Isoler les malades, c'est pas fou.
Non, mais on faisait ça au Moyen Âge.
Oui, je sais, mais on a aussi le problème, c'est qu'on a un virus qui s'attaque à des groupes particuliers et on n'a pas été capable de mettre en place des mesures pour vraiment les protéger. Un des problèmes, c'est l'inflexibilité de nos administrations. Et il faut dire que c'est pas partout comme ça. Il y a des pays qui se sont organisés, dont la fonction publique a été capable de livrer, par exemple, si on regarde des pays comme la Corée du Sud, on a mis en place des mesures de traçage et d'isolement qui ont fait que la société a pu continuer à peu près normalement à vivre. Okay? Donc, il y a des places. Mais je dirais, des administrations comme les nôtres, comme celles en Europe, se sont montrées incapables de faire de se transformer, de montrer l'initiative puis d'efficacité. Et c'est vraiment les problèmes qu'on connaît avec notre administration, qu'on critique pour son inefficacité depuis des années, ben magiquement n'est pas devenue efficace ou capable de livrer la marchandise le 1er mars. Et c'est un peu ça, on vit avec des structures qui sont d'une lourdeur où on a tué toute capacité d'initiative ou de risque. Et bon, tant que les choses marchent à peu près normalement, on peut vivre avec. Mais en cas de crise, on s'aperçoit du dégât que ça peut causer.
Et vous parlez particulièrement, j'avais lu ça dans une lettre que vous aviez publiée dans la presse, vous parliez des jeunes, l'importance chez les jeunes de maintenir des activités sociales. Parce que c'est quand même un âge exceptionnellement où tu es comme une éponge, là, puis tu as besoin de tout ça. Et de garder les gestes barrières pour les populations qui sont plus à risque.
Oui, absolument. Et c'est pas facile. Et là, les gens disent, mais comment on fait ça? C'est ça, faire preuve d'imagination et d'initiative, c'est de mettre en place des structures, avoir des heures peut-être d'ouverture, de mettre en place ce qu'il faut pour protéger les plus à risque, mais permettre aux jeunes... Les jeunes se font ramasser là avec la crise de tous les côtés. Ils vont hériter d'une dette immense. Ils vont avoir des problèmes de formation. Pour ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, c'est extrêmement difficile. Puis en même temps, les gouvernements lésinent à bouger sur le climat, c'est-à-dire qu'ils vont se ramasser avec la prochaine crise en plus, environnementale, économique, avec des problèmes sociaux et tout. C'est épouvantable comment les jeunes se font ramasser.
Je fais un parallèle avec Marie-France Bazot qui a provoqué beaucoup de réactions. Son livre est excellent. D'ailleurs, je pense que vous avez le même éditeur. D'ailleurs, votre livre « Pandémie, quand la raison tombe malade » paraît chez Boréal.
Oui, oui.
Ben, c'était peut-être un hasard. Mais Normand
Mousseau... J'ai très bien apprécié le livre de Marie-France aussi.
Ben oui, parce que Normand Mousseau, vous réservez un chapitre à la couverture médiatique. Où vous semblez aller dans le même sens que Marie-France, et puis nous aussi, ça nous a touchés, et ça nous inclut, nous ici, parce qu'on fait partie des médias. Mm-hmm. Il n'y a pas eu beaucoup de sens critique dans l'évolution du travail des médias face à, comme vous l'avez dit, cette polarisation de la crise qui a été prise par les gouvernements.
Non, en effet. Et il y a eu des articles ici et là, donc ce n'est pas de dire qu'il n'y a rien qui s'est fait, mais je dirais, en gros, les médias se sont alignés beaucoup, beaucoup sur le message de santé publique, avec très peu de regards critiques, autres que de demander des mesures encore plus sévères. En gros, la seule critique qu'on entendait, c'est « on peut-tu nous embarrer plus longtemps ?» puis nous mettre encore plus de contraintes, qui était à peu près la demande principale là, des médias. On va pas assez loin, les gouvernements vont pas assez loin. Et ça, pour moi, et ce que je démontre dans mon livre, c'est aussi que c'est pas de la conspiration, c'est pas une volonté de contrôle. Il y a des structures qui font que les médias s'alignent à un moment donné, parce que c'est plus facile d'expliquer la nouvelle, aussi parce que ce sont des nouvelles difficiles à comprendre. Elles demandent qu'on ait une compréhension de la science, qu'on soit capable de lire les articles scientifiques, de prendre le recul. Et quand on a de la difficulté à faire ça, ben c'est plus facile de s'aligner puis d'aller dans le même sens que les autres. Donc, je pense que tout ça, plus on a la peur de l'inconnu, donc il y a plein de choses qui font que les médias, à mon avis, n'ont pas joué un rôle. Au Québec, plus qu'en Europe, je lis, par exemple.
Certainement,
en France,
plus qu'en Europe. Ouais, oui.
Il y a beaucoup plus de critiques, beaucoup plus de voix discordantes, beaucoup plus aussi d'experts diversifiés. Donc, ici, au Québec, on s'est contenté d'interviewer des épidémiologistes et des microbiologistes avec très, très peu de regard plus large sur les enjeux de société causés par la pandémie.
À tous les jours en France, Normand Mousseau, à tous les jours en France, puis je l'ai dit à Marie-France Bazot, on débat. Et ensuite, on se respecte, mais on débat. On ne diabolise pas et on ne place pas immédiatement à la corbeille un Didier Raoult, qui est controversé peut-être, mais qui a le droit d'exprimer son point de vue. Et ici, immédiatement, dès qu'on a vu les clichés entourés, je dis ce sont des clichés parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas débattu sur si oui ou non la chloroquine, l'hydroxychloroquine, le remdesivir ou les autres produits qu'on nous amenait, la médication, avait une valeur ou non. Là, on a appris aujourd'hui, là, hier, plutôt que l'OMS avait mis à la corbeille le remdesivir. Alors, vous voyez, et on nous a passé ça pendant des semaines en disant, voilà une médication miracle. Moi, c'est ce que je reproche par rapport à la France. On ne débat pas ici.
Mais au-delà même des médicaments, comment mettre en place des mesures pour les plus démunis? Par exemple, on a fermé les bibliothèques. Donc, les gens qui ont une grande maison, qui sont riches, comme un prof comme moi, ça va. T'sais. Mais quand tu es 5 à 6 à travailler dans une maison avec des enfants obligés de travailler sur l'ordinateur, quand on ferme les bibliothèques où il y a zéro contagion, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on affecte ces gens-là les plus démunis. Donc, pour moi, c'est pas juste de débattre de la maladie, mais de débattre les mesures qu'on met en place, est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles affectent de manière disproportionnée? Est-ce qu'on peut les remettre en question solidement puis dire ça n'a pas de bon sens, il faut reculer? Et c'est ça aussi qu'il faut faire, pas simplement. Comment on vit avec une pandémie? On ne s'est pas posé la question. On a un gouvernement qui met en place des mesures invivables, si on veut, avec aucun horizon, aucune stratégie de sortie de crise, en priant que le vaccin va marcher. On semble être chanceux de ce côté-là, mais ce n'était pas garanti la semaine dernière.
Non,
non. Et Normand Mousseau, souvent le discours est tellement complexe, on ne sait même pas vraiment comment appliquer, ne serait-ce que des rassemblements pour la période de Noël. Alors, vous voyez, ça mérite en tout cas d'être débattu. Et votre livre, il tombe très bien, Normand Mousseau. Je rappelle le titre, « Pandémie, quand la raison tombe malade ». Merci de nous avoir parlé, Normand Mousseau. Il sort dans 2 jours. Là. Il va être disponible
mardi,
le 24 novembre. Bon succès, ça mérite d'être lu.